Bonsoir. Dans un rapport publié hier mercredi, l'Observatoire de la dépense publique dénonce l'opacité dans le programme d'urgence dit des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Pour l'ODEP, ce programme a été géré en violation de la loi cadre régissant les finances publiques. Elle cite notamment des cas de surfacturation ou encore d'opacité dans le processus des passations des marchés. Cette ONG qui regroupe les organisations de la société civile de la RDC appelle le Parlement à saisir dans un bref délai la Cour de compte pour que celle-ci puisse mener ses audits en vue de rétablir la vérité sur la mauvaise gestion des fonds publics pendant l'année 2019. Quelle lecture faire de ce rapport? C'est notre thème de ce jeudi 9 janvier 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Florimond Mouteba, professeur d'université et président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir. Vous êtes en ligne, professeur Mouteba? Je crois qu'on a un petit souci avec sa ligne. Peter Kazadi qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est député provincial, élu du Mont Amba Kinshasa. Il est cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme Cash. Et Urma Elunga, il est stratège, spécialiste en politique économique et technicien en management stratégique et opérationnel de projet. Monsieur Urma Elunga, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'Observatoire pour la dépense publique appelle le Parlement à saisir dans un bref délai la Cour des comptes pour que celle-ci puisse mener ses audits en vue de rétablir la vérité sur la mauvaise gestion des fonds publics pendant l'année 2019. Dans son rapport de contrôle de l'exécution du budget de l'État pendant cette période, l'ODEP dénonce la faiblesse et la transparence et de la redevabilité, l'irrégularité des procédures et l'indiscipline budgétaire dominant. En vue de lutter contre la corruption, l'ODEP demande aux de l'État de faire respecter le circuit des dépenses publiques. Écoutez à ce sujet son porte-parole Valérie Mandianga au micro de Jean-Désiré Kanyama.
L'exécution du budget, notamment du programme des 100 jours du chef de l'État, a été gérée hors cadre légal. Et pendant cette période, nous avons noté 7 faits importants qui ont caractérisé la gestion des finances publiques. Il y a eu faible financement du programme des 100 jours. On a réajusté le budget qui était prévu, comme je l'ai dit, à 304 millions de dollars américains, mais dans la mise en œuvre, les projets qui ont été lancés ont dépassé le 2 milliards de dollars américains. Nous avons estimé que l'absence de planification a été la cause principale de tout cet atonnement. Le second, c'est la prépondérance des passations des marchés publics en mode gré à gré. Et un autre aspect que nous avons pu constater, c'est que il y a eu des projets qui ont été surfacturés. Par exemple, pour la construction du complexe scolaire Mokengeli, les montants dépensés s'avoisinent les 1 880 000 dollars. Et pour l'école primaire maternelle du camp et colonel Tchatchi, ça dépasse les 3 millions de dollars américains.
Florimond Mouteba, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on a un souci avec la ligne de Florimond Mouteba, qui est professeur d'université et président du conseil d'administration. On me signale qu'il est en ligne. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Alors, vous êtes professeur d'université et président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Vous avez publié un rapport dans lequel vous dénoncez l'opacité dans le programme d'urgence dit de 100 jours du président Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, professeur, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre radio ou vous éloigner un peu de celle-ci parce qu'on a un écho qui n'est pas très agréable à l'antenne?
Ok, c'est fait.
Alors, je disais, alors, sous base de quoi vous dénoncez cette opacité, l'opacité dans le programme d'urgence dit des 100 jours du président Félix Tshisekedi?
D'abord, comme venait de dire mon collaborateur tout à l'heure, d'abord, la prépondérance dans ces travaux, on a constaté la prépondérance du marché passer de gré à gré, dont 54 projets, des montants de 431 millions effectués avec appel d'offres, et 21 projets d'une valeur de 2,380 milliards effectués de gré à gré. Nous avons dans le rapport, dans les annexes, vous avez la liste complète de tous ces projets. Il y a évidemment la question de la surfacturation des écoles. Lorsque, tant qu'il y a, on nous dit qu'on a financé pour 3,299 millions de dollars la construction de 24 classes. Quand on dit 24 classes, c'est à peu près 4 écoles de 6 classes. Le coût moyen de l'école est de 820 000 dollars. Comment on peut expliquer ça? Alors que dans le rapport sur la reddition de comptes, la loi sur la reddition de comptes, le coût moyen d'une école de 6 classes est entre 125 000 et 150 000 dollars. Comment on peut passer de 100, même au maximum de 150 000 dollars à 820 000 pour la construction d'une école. Mokengeli a été construit avec presque 2 millions de dollars, c'est-à-dire 1 888 000 dollars. Ensuite, nous allons aussi voir par rapport à cette gestion-là. Vous savez qu'avec cette mauvaise gestion des finances publiques, les réserves, par exemple, d'échange de notre pays peuvent permettre de couvrir au maximum 3 semaines d'importation. Ils sont à moins d'un milliard de dollars, à peu près 800 millions, quelque chose comme ça. Nous avons vu également dans cette gestion-là une grande concentration des ressources, mais ça c'est pour l'ensemble du budget, une concentration des ressources au sein des institutions. Vous allez voir que donc les crédits donnés à la présidence, au Parlement, au Sénat, etc., tous sont en dépassement. Tous sont en dépassement. Alors que, de l'autre côté, les secteurs trop pauvres ont vu à peine financer leurs propres dépenses.
Alors, ce sont tous ces facteurs qui vous inquiètent, professeur Florimond Moteba. Dans votre rapport, vous démontrez que le programme de 100 jours élaboré pour répondre aux besoins urgents des Congolais a été géré en violation de la loi cadre régissant les finances publiques en RDC, alors que le pays, selon cette organisation, a enregistré ces dernières années de nombreux programmes dans les secteurs.
C'est un programme hors budget, n'est-ce pas? Il n'a pas, c'est en dehors du budget qui a été voté en 2018, pour l'année 2019. Ce programme d'abord de 100 jours, il est hors budget. Même, vous vous rappelez, lorsque le président de la République est arrivé, son directeur de cabinet, il a écrit à tous les ministères pour qu'il n'y ait plus aucune dépense. Et donc, tout était centralisé à la présidence de la République. Pas seulement les 100 jours, toutes les autres dépenses étaient centralisées à la présidence de la République. Il y a eu, par exemple, lorsqu'on parle, on a beaucoup parlé de ce projet de 2 milliards de dollars sur les traitements des déchets. Mais ce projet était prévu dans quel budget d'investissement pour l'année 2019? Tout était devenu 100 jours, 100 jours. Tout était 100 jours, y compris tout.
Mais le traitement des déchets, ça c'est un programme du gouvernement provincial de Kinshasa. Ça n'a rien à voir avec les 100 jours.
Non. C'est un contrat qui a été signé entre le ministère de l'Énergie à l'époque. L'intérim était assuré par l'ancien ministre du budget, M. Kangoudia, et c'est avec une société, donc ça, c'est une société étrangère, je ne sais pas le nom, mais ça a été signé au niveau national. Ça a été signé par, ça a été, c'est un contrat qui a été donc conclu par un ministre national, qui est le ministre de l'énergie, donc M. Kangoudia à l'époque, avec cette société. Donc c'est pas la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa va en profiter, mais c'est signé par un ministre du gouvernement national, du gouvernement central. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Et pendant ces temps-là, tout ce qui était conclu comme contrat, etc., pour passer par la présidence de la République, tout était devenu programme de 100 jours. Et donc, il ne faudra pas qu'aujourd'hui, on rejette un projet qu'on a intégré. Vous savez que lorsqu'on on parle de... le président de la République avait parlé dans son discours de 400 millions et quelques pour les coûts du programme de 100 jours. Au départ, le programme était parti avec 300 millions. Puis on est arrivé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que certains projets
qui avaient même été initiés par le président Kabila, ont été intégrés au programme de 100 jours. Donc ne soyez pas étonnés que ces projets-là, donc de 2 milliards de dollars, puissent être comptabilisés dans le programme de 100 jours.
C'était mais ce montant de 2 milliards, plus de 2 milliards 400 dollars, a été rejeté par la présidence de la République, qui estime pour qui les montants pour le programme de 100 jours est de 497 millions de dollars et non 2 milliards, comme vous l'avez écrit dans votre rapport.
Les deux, je vous explique que tout découle de la logique avec laquelle les finances publiques ont été gérées à partir de l'arrivée au pouvoir du président de la République. Il a interdit à tout le monde, à tous les ministères, de ne plus faire de dépenses. Et donc, tous les contrats qui étaient passés, y compris celui-là, relèvent de la dynamique de 100 jours. C'est comme ça que nous l'interprétons. Ça relève de cette dynamique. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas le rejeter. Et puis, nous ne disons pas que les 2 milliards ont été déboursés et ont été détournés. Non. Dans la première partie de notre rapport, nous disons que le programme de 100 jours a été insuffisamment financé. Donc, même quand nous comptons 2 milliards 400 millions, nous disons que l'ensemble n'a été financé qu'à hauteur de 8,7%. Et donc, nous déplorons l'insuffisance des moyens qui ont été mis à la disposition du programme de 100 jours. Mais nous déplorons aussi la manière dont les différents contrats par rapport à ce programme ont été passés.
Merci. Vous comprenez ? Merci, professeur. Oui. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de saluer Maître Peter Kazadi, député provincial, élu de Moamba Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme KESH. Maître Peter Kazadi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez lu, j'imagine, le rapport de l'ODEP qui dénonce l'opacité dans le programme d'urgence dit de 100 jours du président Félix Tshisekedi. Sept facteurs inquiétants, faible financement du programme des 100 jours, prépondérance des marchés de gré à gré, des projets surfinancés et surfacturés. Comment vous avez réagi lorsque vous avez lu ce rapport?
J'ai lu ce programme, ce rapport avec beaucoup d'intérêt et j'ai trouvé beaucoup de contre-vérités. J'ai classé tout de suite là dans les cadres de... Je pense qu'il s'agit d'une ONG qui s'est dit spécialisée dans les contrôles des finances, je crois. Et j'ai compris qu'il s'agit...
Un regroupement des organisations de la société civile, hein, qui travaillent dans le suivi et contrôle du processus budgétaire.
J'ai compris tout de suite que c'est comme toutes les organisations que nous avons connues dans ces pays, qui reçoivent des financements de l'étranger et qui font des rapports bidons. Laissez-moi vous dire que ce rapport est vide, sans référence. Vous entendez, lorsque lui-même parle, il parle parfois au conditionnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les données. Moi qui vous parle, j'ai participé à l'élaboration du programme intérimaire des 100 jours. Je sais ce que nous avons fait. Il y a eu environ 416 projets disséminés à travers la République. Et ces 416 projets ne sont pas que des innovations apportées par le président de la République. Nous avons pris par-ci par-là d'autres projets qui étaient en maturation, qui étaient parfois abandonnés, d'autres en cours d'exécution, et nous les avons assemblés et on a donné de l'impulsion pour essayer d'accélérer les choses et du coup changer plus ou moins les visages de notre pays. Lorsque j'ai lu dans ces rapports des histoires telles que on a insuffisamment financé les projets, je ne sais pas à qui ils attribuent ça. Vous voyez le président de la République, un homme politique de ces rangs-là, mettre en place un projet de société, des projets, comme je venais de vous le dire, et refuser de les financer. Donc, il n'y a aucun fondement dans les rapports en question. J'ai l'honneur de dire, d'annoncer au peuple congolais que le programme intérimaire du président de la République est à ce jour exécuté à environ 70%. Voyez-vous? Donc, lorsque de l'autre côté on dit que c'est sous-financé, je me demande sur quelle base, quel document, quel ouvrage, où est-ce qu'ils ont mené des enquêtes, je ne retrouve pas. Il s'agit tout simplement d'un projet monté de toutes pièces pour justifier des fonds peut-être reçus de l'étranger, mais il n'y a aucun soubassement dans ces rapports qui puisse étayer leurs affirmations.
Pourquoi vous pensez que c'est l'Observatoire a reçu des fonds venus de l'étranger
mais nous savons,
pour qu'il intéresse?
Madame, nous savons comment ça fonctionne. Ces gens, la plupart, n'ont pas du travail. Ils sont dans ces organisations, ils obtiennent des financements des gens de bonne foi qui pensent qu'ils peuvent aider à l'amélioration de la gestion de la chose publique, mais malheureusement lorsqu'ils empochent, c'est pour eux et leur famille, et ils rapportent n'importe quoi sur leur paperasse. Et c'est ça le cas de les dire.
Mais du temps du président Joseph Kabila, cet observatoire a produit aussi des rapports, a dénoncé la corruption, l'opacité dans la gestion de la chose publique.
Vous avez applaudi
ces rapports.
Nous sommes dans un pays où la corruption est monnaie courante, ça c'est un fait. Mais j'aimerais bien que lorsqu'on allègue des choses, que ça soit étayé de preuves. Est-ce que mon co-débatteur peut dire sur quelle base, sur base de quels documents il se fonde, sur base de quelle inspection des terrains qu'il nous dénombre? Est-ce qu'il connaît le nombre des projets qui sont contenus dans les programmes des 100 jours? Parmi ces nombres, donc, de ces nombres qu'il connaît, combien sont exécutés, combien ne sont pas exécutés et qu'il les cite? Est-ce qu'il peut les faire? Donc, il raconte des histoires en l'air comme ça.
Et vous, sur quelle base vous dites qu'il raconte des histoires
dis,
en l'air,
je
puisque vous n'avez
que,
pas des
je
preuves
vous dis, je vous dis que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont élaboré ces programmes et qui ont suivi l'exécution. Je vous dis que c'est aujourd'hui à 70% que les mesures des 100 jours sont exécutées. Et il parle des...
Mais qui ne sont pas visibles, apparemment,
non,
maître
mais écoutez,
Peter Casadis.
C'est visible, madame. Il y a des travaux de saut des moutons qui sont en cours.
Qui créent des embouteillages.
Ça crée des embouteillages, mais c'est en exécution. Il y a des avenues, je cite
travaux.
Les cas que vous pouvez connaître. Vous prenez l'avenue Bokassa qui est achevée. Ça a été mis dans les programmes des 100 jours. L'avenue, je crois, du commerce. Aller à l'est de la République. C'est à travers les pays que ces travaux se font. Et je vous dis
mais
que ces
travaux
que sont exécutés aujourd'hui
se sont
à 70%.
Arrêtés par manque d'argent.
Effectivement, lorsque nous disons que c'est à 70%, cela ne veut pas dire 100%. Il y a des financements qui sont en cours, mais le projet est exécuté à ce jour à 70%.
Ce rapport dénonce aussi la prépondérance des marchés de gré à gré.
Voilà.
21 marchés passés de gré à gré.
Ok, sur combien de marchés? La question qu'il faut ici répondre, à laquelle il faut répondre, est-ce que la procédure d'urgence est-elle légale ou pas? Et qu'on dénombre le nombre des projets et qu'on nous dise en termes de pourcentage, les marchés passés de gré à gré sont à quel niveau? C'est comme ça qu'on doit travailler. Lorsque vous dites surabondance, mais ça veut dire que c'est 80%. Moi, je vous dis non. Nous avons trouvé des projets en cours d'exécution qui étaient en VS. Nous les avons relancés sur les lignes budgétaires prévues dans les budgets de 2019. On a fait recours à des sociétés telles que Foner, FPI, qui sont des sociétés spécialisées dans les financements des routes et consorts. Ils ont donné des moyens à l'État et on a utilisé ces moyens pour la reconstruction des routes. Voilà. Qu'ils nous disent où est-ce que la mégestion a été constatée, où est-ce que
Professeur Florimond Mouteba va vous répondre. Des écoles surfinancées et surfacturées, on a donné l'exemple de l'école primaire maternelle
les
du camp
écoles...
colonel Tchati à Kinshasa et du complexe scolaire Mokengeli.
Alors, c'est sur base de quoi il dit que c'était surfacturé?
Ils ont comparé par rapport à 2015 où une salle de classe, une école de ça avec 6 salles de classe, voilà, plus bureaux, a coûté moins cher
voilà.
que le prix qu'on a donné
okay.
pour les 100 jours.
Okay. D'abord, en ce qui concerne les écoles, tout le monde sait que M. Matata Ponyo, Premier ministre, avait lancé le projet des 1000 écoles. Vous le savez. Nous avons trouvé ces projets en cours. Il avait réussi à terminer d'autres écoles et d'autres pas. On n'a fait que relancer ce que nous avons trouvé. Et peut-être qu'il pouvait y avoir des modifications qui pouvaient entraîner un surcoût, mais sinon, pour la plupart des cas, nous avons ramassé ce que nous avons trouvé qui était inachevé. Nous avons avancé sur la même voie et rien n'a été changé. Donc voilà pourquoi j'exige que cette ONG, ce regroupement des associations, qu'ils nous disent sur base de quoi Quels sont les documents à leur disposition qui leur permettent de faire ces affirmations?
Merci. Urbain Ilunga, stratège, spécialiste en politique économique et technicien en management stratégique et opérationnel des projets. Quelle lecture vous faites de ce rapport?
D'abord, bonjour. Pardon, je profite de l'occasion pour transmettre mes meilleurs voeux à la radio Capi et à tous les auditeurs et à la nation congolaise. Je suis cependant un peu inquiet. Vous voyez déjà, j'interviens en tant que technicien, mais pour départager les deux extrémités, il y a difficulté. Il y a difficulté tout simplement parce que déjà, dorénavant, il y a opacité. Il n'y a pas de clarification, il n'y a pas de clarté. Aujourd'hui, étant donné que c'est une question d'urgence, dès lors que le président Félix a pris la main du pouvoir, à isoler les autres sphères de l'administration publique. Donc c'est seulement la présidente de la République qui gérait la question. Aujourd'hui, on a un peu du mal de savoir qui dit la vérité, qui ne dit pas. C'est la grande difficulté. Mais je dois quand même l'avouer que depuis toujours, les finances publiques ont été ténues de manière calamité. La gestion de finances publiques congolaises a toujours été calamité. C'est pas aujourd'hui que nous entendons cette de dépenses extra-budgétaires. Depuis toujours, sous Kabila, c'était la couleur des règles. C'est-à-dire que c'était devenu la règle. Cependant, je ne me rappelle pas. Bon, je ne sais pas si vous en connaissez quand même, parce que, à mon humble avis, je n'ai pas à moi le souvenir de me rappeler quelques rapports de l'ODEP indexant le dépenses extra-budgétaires ou la gestion. Je ne dis pas qu'il n'a jamais fait. Bon, je refuse pas, mais je dis que même s'il en avait fait, bon, c'était pas de l'habitude. Si aujourd'hui l'ODEP se révolutionne de cette façon pour indexer la mauvaise gestion, je crois que j'encouragerais. Mais le conseil que je donnerais à l'ODEP, c'est qu'il devrait être objectif. Je ne trouve pas que ça soit intéressant si jamais ODEP n'est pas objectif, donc il est subjectif. Ça ne construirait pas ces pays. Nous avons besoin des organismes qui viennent nous apporter un plus, qui viennent relever les problèmes du Congolais et puis le régler. En fait, que ce soit réglé. Mais si je dois rentrer dans le débat, je vais m'efforcer pour dire que le programme de 100 jours tel que élaboré a essayé de faire quelques péchés. Le premier péché, c'est que c'est la transparence. La transparence, peu importe que le projet a été d'urgence, mais il fallait que le principe de transparence qui doit faire l'objet de finances publiques devait être respecté. Le principe voudrait que, par exemple, que l'imputation de responsabilité soit clarifiée. Je dois rappeler que il est question ici du budget de l'État, donc du trésor public, qui implique le pouvoir central, les provinciales et les ETD. Bon, ici, le programme de 100 jours n'a pas clarifié. Il n'y a pas de clarification sur l'imputation de responsabilité, par exemple. À quel niveau? Les degrés de responsabilité ou les niveaux, les échelons de responsabilité ne sont pas bien identifiés dans le projet. Le deuxième péché, c'est que le pouvoir budget, les programmes tels qu'élaborés, comme toujours j'ai entendu dire tout le monde, même les communs du mortel, est en train d'acquiser ces programmes qui n'est l'article 61. Parce que moi, je suis aussi d'accord, parce que nous ne devons pas toujours évoluer d'urgence en urgence, parce que c'est l'amont de gestion qui caractérise. Ça devrait être normalement une exception, mais c'est l'amont de gestion qui caractérise notre État. Je n'indexe pas le pouvoir actuel, donc l'ex-pouvoir était toujours comme ça. Donc, le programme, il n'y a pas de plan d'action. Une action menée sans un plan est un cauchemar. Il est mieux de planifier ce qu'on veut avoir. Il est mieux de planifier nos actions parce que ça, ça nous permettrait d'être rationnels, ça nous permettrait d'être cohérents. C'est par là que si j'indexe l'absence d'un plan, d'une vision cohérente, qui ferait de sorte que les actions soient menées de manière cohérente. En fait, les actions sont menées de manière cascade, chacun qui vient à son cahier des charges, et donc il n'y a pas une vision cohérente. Le problème de ces pays, le vrai problème de ces pays est l'absence des structures fortes, qui est une conséquence de l'inexistence d'un plan stratégique de développement. Les actions sont menées vraiment en cascade. Donc ça, c'est le grand péché que j'indexe à ces projets. Mais ce que je peux avouer aussi, c'est que nous avons entendu parler aussi de dépenses extra-budgétaires, mais pour ne rien voir par la suite, hein, je dois féliciter peu importe ce qu'on peut reprocher à ces programmes, nous voyons quand même quelque chose du concret. Nous voyons quelque chose qui se fait. À la différence, je suis pas politique, moi je mène une analyse totalement partielle. Je pense que les programmes de 100 jours essayent de nous donner quelque chose que la gestion, que l'administration ancienne ne nous a pas donné pendant beaucoup de temps.
Merci Urbain Elunga. On va vous redonner la parole, professeur Floribond Mouteba. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kamina.
C'est Roger Kaboulo depuis la province de Olomami, dans la ville de Kamina, chef lieu de la province. L'action entreprise par ces ONG est une action salvatrice. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à la population congolaise de savoir au moins comment l'argent du trésor public est dépensé. Du moins, il ne faut pas que cette action, qu'il y ait la main noire cachée derrière, ou soit cette action soit politisée, afin de bloquer le développement de notre pays. Surtout, le FCC n'a pas la bonne volonté de faire développer notre pays, raison pour laquelle cette action pourra peut-être être politisée jusqu'à tel point bloquer le développement entrepris par le président de la République. Nous espérons quand même que cette action sera une action salvatrice et non politisée.
Professeur Mouteba.
Oui. D'abord, je voudrais dire à mon compatriote Kazadi que on ne peut pas, dans un tel débat, commencer à injurier des Congolais en les traitant comme il a fait. Hein? Vous savez, je ne pense pas même que le chef de l'État pour être content de l'entendre dire ça. Parce que vous ne connaissez pas ces gens-là. Parmi eux, il y a des professeurs d'université comme moi-même. Je ne veux pas tourner autour de moi, mais je vous renseigne une chose. Que j'ai été le premier Congolais noir à diriger un institut supérieur en Belgique. À la présidence de la République, là, j'ai des étudiants, des anciens étudiants de l'ICAD qui sont là-bas. Et donc, vous ne pouvez pas parler comme vous faites. L'ODEB existe depuis 10 ans aujourd'hui. 10 ans. Et comme disait madame tout à l'heure, le président Kabila connaît l'ODEB. Le président de Kabila a été critiqué par l'ODEB. Et nous n'avons jamais entendu des injures contre des intellectuels congolais, des cadres congolais. Donc, pour cela, vraiment, je pense que vous n'avez pas eu raison de dire des choses comme ça. Deuxièmement, ces rapports que vous voyez là, ces rapports n'ont été financés par aucun bailleur international. Ça a été un travail bénévole, fait par les ONG congolaises, en groupe, pour pouvoir, comme disait l'intervenant de tout à l'heure, dans l'intérêt de notre pays. Alors, pour revenir même sur le programme, je remercie beaucoup mon compatriote Ilunga, qui est intervenu tout à l'heure, et ce n'était pas moi, il n'est pas de l'ODEP, n'est-ce pas? Et nous avons tous entendu son intervention. Elle va dans le sens du rapport qui a été fait par l'ODEP. Alors, par rapport au reste, vous me sortez, par exemple, les sautes de moutons. Les sautes de moutons, c'est ça, les projets pour le développement des Congolais. Si vous me parliez au moins du secteur agricole, que vous avez donné l'argent pour l'agriculture, c'est bien. Les sautes de moutons profitent à qui? À ceux qui ont des véhicules, qui circulent. Les sautes de moutons, c'est ça, le peuple d'abord. Vous voyez, donc vraiment, il faut pas dire n'importe quoi par émotion, parce que vous réagissez par émotion. Le travail qui a été fait par l'ODEP est un travail objectif.
l'ODEP fait au bénéfice des financements de qui? Renseignez-vous d'abord, au lieu de dire, voilà, vous avez reçu le financement de l'étranger, etc. Mais l'étranger, quand vous parlez de l'étranger, quand le président de la République voyage pour partir dans le monde entier, c'est pour faire quoi? Il va chercher quoi? Des financements, oui ou non? Alors, le financement, c'est bien quand lui va chercher, mais pas quand les autres peuvent l'avoir pour faire un travail dans l'intérêt du peuple congolais. Non, chers compatriotes, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Ouais, le Congo n'est pas un butin de guerre où on est allé à la chasse et on a battu un éléphant et on commence à les dépiécer dans les désordres. Non, le Congo doit gérer correctement. Si on veut le développement, comme disait mon compatriote tout à l'heure.
Alors, professeur, professeur, vous avez formulé des recommandations aux autorités congolaises pour améliorer la gestion des finances publiques en RDC. Est-ce qu'on peut connaître ce que vous avez proposé, par exemple, ou recommandé au chef de l'État?
La première chose, c'est qu'il doit réhabiliter les fonctions de contrôle partout. Et d'ailleurs, nous en profitons pour demander que le Parlement demande à la Cour des comptes d'initier des audits sur la gestion des finances publiques durant l'année 2019. Que tous les projets soient audités par la Cour des comptes. Et comme ça, la Cour des comptes va nous départager tous. Et on va voir qui dit la vérité, qui ne dit pas. Donc, si il faut qu'on connaisse vraiment la vérité, qu'on donne les moyens aujourd'hui à la Cour des comptes, nous demandons au Parlement, hein, à la majorité parlementaire, d'instruire la Cour des comptes pour qu'elle puisse initier des audits sur toute la gestion des finances publiques en 2019. À ce moment-là, nous avons, ça c'est la première recommandation. Et nous demandons au président de la République d'encourager ces audits-là et de donner les moyens effectivement à toutes les institutions de contrôle. La Cour des comptes, vous avez vu comment l'inspection générale des finances a été musée. De quoi a-t-on peur? Le contrôle fait peur, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a opacité, ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Ça veut dire qu'il n'y a pas rédévabilité. Ça veut dire qu'il y a violation de procédures. N'est-ce pas?
Alors, vous demandez aussi, professeur, l'organisation d'un forum national sur la fragilité budgétaire en vue de la compréhension de la chaîne de la recette et des dépenses publiques. C'est pas un forum de trop. Qu'est-ce que ça pourrait changer ou apporter?
Pas du tout. Parce que, vous voyez, on prétend faire un budget de 10 milliards. On se pose la question de savoir ces 10 milliards viendront d'où. Il faudra qu'on soit capable de mieux gérer les dépenses d'une manière rationnelle, mais qu'on soit aussi capable de mobiliser. Hein? Donc, la chaîne de recettes, la chaîne de dépenses, il faut que tout le monde comprenne l'importance et ça va permettre justement de diminuer les dépenses dépensées d'une manière irrationnelle et d'améliorer la mobilisation des recettes. Pour que nous ayons un budget, pas seulement de 10 milliards, nous
Merci.
Pouvons même, le Congo peut avoir un budget même de 20 milliards, n'est-ce pas? Il peut avoir même plus.
Merci,
donc,
professeur.
Ce forum n'est pas de trop, c'est un forum qui va compléter, par exemple, le forum qui a eu lieu en 2017, justement sur la question...
Merci, professeur. On vous redonne la parole tout à l'heure, Peter Kazadi. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Marc Sambika, je vous appelle à partir de la province de Okatanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Les rapports publiés par l'ODEP est une observation qui traduit non seulement la vérité du terrain, mais aussi et surtout les inquiétudes qui logent dans les têtes de plusieurs Congolais à travers le pays. Il convient de soutenir l'appel lancé par cette ONGD, d'interpeller les parlementaires pour qu'enfin les choses soient tirées au clair, car nous ne comprenons pas pourquoi, depuis son lancement, par les chefs de l'État, ce programme ne produit pas toujours d'effet dans plusieurs provinces, notamment celle de l'espace Grand Kasaï, ainsi que les détournements des fonds et du matériel d'exécution des travaux décriés dans d'autres provinces où celui-ci semble être visible. Nous interpellons également les chefs de l'État, lui, qui avait lors du lancement de ce programme dit qu'il allait faire de tout son mieux pour suivre de près l'évolution des travaux ainsi que des fonds alloués pour l'exécution effective de ces programmes. Et nous en donner le bilan pour que tous nous sachions comment ça évolue.
Maître Peter Kazadi.
Merci beaucoup. D'abord, je ne suis pas d'accord avec les compatriotes lorsqu'il dit que ces rapports traduisent la vérité du terrain. Je venais ici de vous démontrer que ces rapports n'est fondé sur rien. Je me croyais que monsieur le professeur d'université qui venait de parler allait me rencontrer sur les moyens que j'ai soulevés. J'ai demandé sur base de quels documents, de quelle enquête de terrain il a pu constater que ce rapport n'est pas exécuté, que les marchés de gré à gré seraient en surnombre par rapport au marché réel. Au lieu de répondre, il se perd pour me rappeler qu'il est professeur d'université.
Vous avez les réponses dans le rapport.
Vous savez, mais c'est dans la même ordre d'idée, j'ai dit que ce rapport ne traduit pas la vérité. Je l'ai dit et je l'ai démontré. Nous avons connu des professeurs, des grands professeurs avec beaucoup de diplômes et le pays est allé de mal en pire. Alors je n'aime pas que quelqu'un vienne ici uniquement avec son titre de professeur pour nous faire gober des histoires. Je ne parle pas avec l'émotion, je parle sur des faits que je maîtrise.
Alors sur j'ai terrain, posé comme la question, l'a dit cet auditeur, on ne sent pas, on ne voit pas.
Dans les grands Kassai, il a
voilà,
dit.
Voilà, le chef de l'État avait promis de revenir faire le bilan, dresser le bilan de ces 100
mais
jours.
Il l'a fait,
on l'attend toujours,
il a donné même des chiffres, madame, lorsqu'il s'est adressé à la nation en décembre. Il a décrit les contenus du projet de 100 jours. C'est là que les gens peuvent découvrir facilement que le président de la République a parlé de 497 millions, le coût global de ce projet, tandis que ces rapports parlent des milliards. Alors, c'est là que je me demande, ils se sont fondés sur quels documents pour établir ces rapports? C'est ça qui relève de la fausseté. Lorsqu'il dit que ils ne sont pas financés, mais écoutez, nous avons des éléments. En 2016, ils ont été
alors, dans ce
financés
rapport,
par
dit,
l'étranger
selon les
à 250 000.
Selon en 2017, 340 000 dollars.
Mais l'année dernière, ils ont reçu 500 000. Alors que dans les organisations, il est prévu l'autonomie. Donc, le financement interne, ce n'est que 10 000 dollars qu'ils n'arrivent même pas à réaliser. Donc, nous savons comment ça fonctionne. Nous sommes tous des Congolais.
Le rapport dit que ces informations ont été recueillies auprès du ministère du Budget, du Fonds de promotion de l'industrie et du Fonds national d'entretien.
C'est dit n'importe quoi. Pourquoi ils n'ont pas annexé ces rapports-là, les documents des ministères qu'ils citent? Pourquoi ce n'est pas annexé à les rapports? Il parle comme ça en l'air. Nous avons travaillé avec ces différents ministères. Les ministres des finances étaient là, les ministres des travaux publics.
Donc vous rejetez carrément tout ce rapport.
J'ai dit que ces rapports ne reposent sur rien, il n'y a que du mensonge là-dedans. Et je comprends pourquoi. C'est pour se montrer que... Puisque vous savez, pour bien fonctionner dans ces pays et beaucoup plus se faire payer à l'étranger, il faut se montrer dur avec les pouvoirs en place, raconter du mensonge et du n'importe quoi. Donc, il n'y a rien de fondé dans
comme
ces
vous
rapports.
L'avez fait,
j'ai dit,
dans l'opposition.
Et je persiste. Ah, mais si on l'a fait, tant mieux. Mais aujourd'hui, lorsque on vient avec un rapport aussi léger, qui ne repose sur rien, tout simplement puisque c'est rédigé par les professeurs d'université, c'est pitoyable. On ne va pas gober des histoires comme ça.
Merci, Maître Peter Kazadi. Mayelunga, on a aussi une réaction pour vous, qui nous vient du Maniema.
Soumaï David Moussafiri depuis la province du Maniema. C'est une très bonne démarche de la part de l'ODEP qui trouve le courage de dénoncer et poursuivre dans les éventuels détails l'opacité des fonds publics de notre pays, la RDC. Nous sommes de cœur avec lui et l'encourageons de poursuivre avec attention cette démarche qu'il a entreprise. Cependant, de par différentes expériences, je doute fort que l'ODEP n'atteigne pas son objectif quant à cette démarche, étant donné que toute situation de détournement ou utilisation abusive des fonds publics qui concerne les autorités politico-administratives compétentes du pays et qui cherchent à être poursuivies finit par disparaître, être anéantie sans suite ni en tirer une conclusion. Quel est le cas des 15 millions de dollars et autres que vous et moi connaissons bien? Vraiment, dans ce cas aussi, je ne m'étonnerai pas ni être surpris que ces dossiers soient classés à suivre sans suite pour en faire des arguments démagogues comme il en est d'habitude.
Urbain Ilunga.
Oui, merci beaucoup. Là, j'ai entendu un Congolais qui parle. Je l'ai aperçu un peu difficilement, mais je ne sais pas si j'ai bien capté. Donc, il est en train de plaider pour une poursuite de tous ceux qui détournent le denier public. C'est ça?
Oui, entre autres. Mais il est quand même assez sceptique. Hein. Il croit que ce rapport ne va pas aboutir. Il sera classé sans suite. On va pas en tenir compte, comme d'ailleurs plusieurs rapports sur les détournements qu'on classe sans suite.
Bon, effectivement, il faudrait que Monsieur le Président Félix fasse une différence, hein, parce que l'ancien, ce Kabila, nous avons entendu aussi des rapports comme ça, nous le Bambi a travaillé, a produit autant, mais qui n'ont produit aucun effet. Nous n'avons pas besoin des rapports cosmétiques qui n'aboutissent à rien. Donc, des promesses qui s'apparentent à des promesses commerciales, du marketing. Nous avons besoin de promesses qui se tiennent. Donc le président de la République a promis pour tous ceux qui se feront passer pour les voleurs, des tourneurs de fonds du domaine public. Donc moi j'encourage. Parce qu'il faudrait savoir que dans cette République, le clientélisme, c'est la règle, hein. Le clientélisme, le népotisme, donc c'est la règle, c'est la tolérance. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire appel à tous les esprits de l'économie, les grands esprits. Mais on peut ressusciter même les Ken et les autres aujourd'hui. Dans un contexte comme le nôtre, ils ne vont rien foutre. Dans un contexte comme le nôtre, caractérisé par une corruption à outrance de ces degrés, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, nous savons tous que nous sommes en amont dieu de la corruption, mais en aval, c'est elle qui devient dieu de notre souffrance. C'est nous qui créons la corruption, la complaisance, et en fait, après, c'est elle qui nous pose problème. Moi, je conseille au pouvoir en place d'être conséquent, c'est-à-dire de frapper, de remettre l'ordre dans la gestion de finances publiques, de garantir la transparence, de promouvoir la transparence, sinon ça ne va pas marcher,
Merci Urbain Ilunga. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Professeur Florimond Mouteba, nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de conclusion.
Que notre travail, que vous connaissez d'ailleurs, donc ça fait plus de 10 ans, nous le faisons, nous avons le droit de faire ce contrôle citoyen, surtout en ce qui concerne les finances publiques. Nous l'avons fait sous Kabila, on n'a jamais été autant injurié, mais au moins il écoutait, puis quelque part, vous savez, le comité d'orientation des réformes des finances publiques a été créé par Kabila. Donc vous comprenez l'importance des réformes qu'il y a dans les finances publiques. Et cet organisme, les CORES, travaille avec nous. L'ODEP est point focal du comité d'orientation des réformes de finances publiques pour la société civile. Et donc, nous travaillons aussi en collaboration avec l'administration. Donc, nous sommes appuyés, entre autres, par un projet de la Banque mondiale qui s'appelle Profit Congo. Et donc, nous travaillons avec l'administration publique.
Merci,
et nous
professeur.
Voulons travailler en bonne intelligence.
Merci, donc, professeur. Désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Maître Peter Kazadi, votre conclusion.
J'encourage les Congolais à être regardants sur la manière dont la chose publique est gérée, mais je m'insurge contre tout rapport biaisé comme celui de l'ODEP. Je pense qu'ils doivent faire le travail honnêtement pour être crédibles et crédibiliser les diplômes qu'ils détiennent. Voilà.
Merci Maître Peter Kazadi, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Merci à Donna Madimba qui était à la réalisation, à l'ingo et à la prise de son. Présentation et coordination Kéline Couté, supervision Axel Gonto. Au revoir et à demain.